Vous écoutez On lit pour vous.
Des experts s'entendent sur une nouvelle définition de l'obésité. Un texte de Marie-Ève Cousineau, paru le 14 janvier 2025 dans la presse. L'obésité est-elle une maladie ou non? Le débat fait rage dans la communauté médicale depuis des décennies. Voilà que 56 experts internationaux réunis par la revue The Lancet, Diabetes and Endocrinology, s'entendent sur une définition de la maladie. Et elle ne reposera pas uniquement sur le fameux indice de masse corporelle, IMC. On s'attend à ce que ce soit une révolution dans le monde médical, dit Jean-Pierre Després, chercheur à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, IUCPQ, Université Laval, et membre du groupe d'experts sélectionné par la revue britannique. L'obésité est définie traditionnellement comme un excès de graisse corporelle augmentant le risque de développer des problèmes de santé, donc un facteur de risque et non une maladie en soi. Environ la moitié des experts souhaitaient que cette condition soit considérée comme une maladie, dit Jean-Pierre Després. Après 2 ans de discussion, la commission sur l'obésité de The Lancet Diabetes and Endocrinology statue sur la question. Ses conclusions, publiées mardi soir, sont appuyées par 75 organisations médicales. Le groupe d'experts fait la distinction entre l'obésité clinique, une maladie chronique, et l'obésité préclinique, qui n'en est pas une. Il énumère divers critères pour qu'il y ait pathologie. Selon la commission, l'obésité ne doit plus se mesurer uniquement par un IMC de 30 ou plus. Au Québec, environ 30 % des adultes tombent dans cette catégorie, d'après Statistique Canada. L'IMC, c'est du gros n'importe quoi, parce que ça ne fait pas la distinction entre un poids élevé, qui est déterminé par une grosse masse musculaire, et un poids élevé lié à un excès de graisse corporelle, affirme Jean-Pierre Després. Il cite l'exemple de Laurent Duvernay-Tardif, qui aurait eu un diagnostic d'obésité à l'époque où il jouait au football et qu'il était en grande forme. Les critères de la maladie. Afin de confirmer un excès de tissus adipeux, le groupe d'experts recommande de mesurer l'IMC, mais aussi le tour de taille, où se loge la graisse abdominale, dangereuse pour la santé, martèle Jean-Pierre Després. La commission fixe le seuil d'un tour de taille problématique à 102 cm chez les hommes et à 88 cm chez les femmes. Mais cela ne suffit pas pour diagnostiquer une obésité clinique. Le patient doit aussi avoir un dysfonctionnement directement relié à son obésité. La commission en dénombre 18 pour les adultes et 13 pour les enfants et adolescents. Parmi eux, l'insuffisance cardiaque et la maladie du foie gras. Les patients qui n'ont aucun de ces problèmes sont atteints d'obésité préclinique. Ces gens-là doivent être surveillés, dit Jean-Pierre Després. Il peut s'agir de gens dont l'IMC se trouve légèrement en dessous de 30, mais dont le tour de taille dépasse le seuil établi par les experts. Pensez à l'homme de 60 ans, sédentaire toute sa vie, qui a perdu de la masse musculaire, qui a de petites jambes et un bedon dur, affirme Jean-Pierre Després. Réaction. La docteure Marie-Philippe Morin, clinicienne chercheuse à l'IUCPQ Université Laval, se réjouit de cette nouvelle définition qui permettra de cibler les patients malades et de les prioriser. Ils doivent être traités et avoir accès à des soins et des services, comme pour n'importe quelle autre maladie, souligne-t-elle. Actuellement, ce n'est pas le cas. les médicaments traitant l'obésité, Ozempic et Wegovy, ne sont pas couverts par le régime québécois d'assurance médicaments. La pédiatre endocrinologue Mélanie Anderson, qui pratique au Centre hospitalier universitaire CHU Sainte-Justine, croit que cette définition plus claire aidera à baliser la couverture par la Régie de l'assurance maladie du Québec des médicaments traitant l'obésité. On espère que cela serait accessible, pas à tout le monde, mais aux sous-groupes de personnes qui vont vraiment en bénéficier et pour qui ça va faire une grosse différence pour leur santé. Pour la docteure Julie Saint-Pierre, pédiatre et spécialiste de l'obésité, cette publication est un argument de plus en faveur de la prise en charge des patients atteints d'obésité clinique et d'obésité préclinique par des équipes multidisciplinaires trop peu nombreuses au Québec, selon elle. Si tes parents n'ont pas d'assurance, c'est pratiquement impossible d'avoir accès à une nutritionniste et un kinésiologue, déplore la fondatrice de l'approche 180, une approche interdisciplinaire dans la prévention et la prise en charge de l'obésité. La docteure Morin croit que cette publication aura aussi des retombées positives pour les gens ayant un IMC élevé et qui n'ont pas de problèmes de santé associés. Pour leur assurabilité, par exemple, ou même la stigmatisation liée au poids, cela a un bénéfice, pense-t-elle. C'était « Des experts s'entendent sur une nouvelle définition de l'obésité », un texte de Marie-Ève Cousineau, paru le 14 janvier 2025 dans la presse.
Espoir et revers pour les patients atteints de la SLA, un texte d'Isabelle Pion, paru le 14 janvier 2025 dans la Tribune. Un médicament utilisé pour contrôler les fuites urinaires suscite de l'espoir dans le traitement de la sclérose latérale amyotrophique, SLA. Un nouvel essai clinique est en cours à l'Institut Hôpital Neurologique de Montréal. Par ailleurs, un troisième médicament qui avait été rendu disponible pour les patients, l'Albrioza, a été retiré du marché. La base de l'essai clinique a vu le jour à partir des travaux menés dans le laboratoire du professeur Richard Robitaille, professeur titulaire au département de neurosciences de l'Université de Montréal. Il n'existe actuellement aucun remède pour traiter la SLA, une maladie qui attaque graduellement la capacité de marcher, de parler, d'avaler et de respirer des patients. Le traitement qui pourrait être développé vise à améliorer la qualité de vie des patients en améliorant leur force musculaire et peut-être prolonger l'espérance de vie. Environ 80 % des personnes atteintes ont une espérance de vie de 2 à 5 ans après avoir reçu leur diagnostic. L'essai s'intéresse à la jonction neuromusculaire des patients, plus particulièrement à la destruction du contact entre le nerf et le muscle, un phénomène précoce dans la maladie et présent chez tous les patients atteints de la SLA. Citation. Nos travaux ont montré qu'il y a de petites cellules de support qui sont présentes dans ces structures-là, les jonctions neuromusculaires, qui sont super importantes pour maintenir et réparer ce contact-là. Dans la SLA, ces cellules-là ne font pas leur travail comme il faut. Le médicament, darifénacine, vient rétablir en partie le rôle de ces cellules-là et leurs fonctions. Fin de citation. On approche la maladie différemment. Citation. Ce qu'on a pu montrer dans notre étude en laboratoire, c'est que ça rétablit le contact nerf-muscle, la fonction des muscles, la locomotion. Ça a remis le système musculaire et le contrôle nerveux du système musculaire en route. Fin de citation, explique-t-il. La particularité de cet essai est qu'on s'intéresse à un mécanisme qui n'a jamais été ciblé auparavant. Citation. On s'en va dans un territoire inconnu avec une cible thérapeutique différente. On approche la maladie différemment. C'est novateur en ce sens-là. On a hâte de voir si notre idée tient la route. Fin de citation. L'essai pourrait prendre environ 18 mois. Les résultats finaux pourraient être connus dans 2 à 3 ans. L'équipe du professeur Robitaille, qui est aussi président du Fonds québécois de la recherche sur la SLA, a notamment obtenu un financement de ALS Association aux États-Unis. L'essai clinique, pour lequel le recrutement est en cours, s'adresse à 60 patients de 2 sites, au Neuro à Montréal et à la clinique du Ottawa Hospital. Il collabore avec la docteure Angela Genge, directrice de la clinique de SLA au Neuro. Les patients devront répondre à différents critères et un entretien avec leur neurologue sera nécessaire afin de déterminer l'admissibilité. Un médicament en moins. Il existe actuellement 2 médicaments au Québec afin de traiter les patients atteints de la SLA, soit le riluzole et l'édaravone. Le 3e, l'Albrioza, n'est plus disponible. Québec avait annoncé à l'été 2023 que l'Albrioza ferait l'objet d'une couverture par l'entremise du régime général d'assurance médicaments. Dans un document, Santé Canada rappelle que l'Albrioza avait été autorisé en 2022 d'après les résultats d'une étude clinique de phase 2. Or, l'autorisation conditionnelle dépendait de la vérification d'un bienfait clinique dans une étude de phase 3, un bienfait demeurant non confirmé. Citation. Avec raison, l'entreprise Amylyx a décidé de retirer son médicament du marché, ce qui était correct de faire. Mais ça a posé des problèmes, parce que des gens qui prenaient l'Albrioza avaient l'impression d'aller mieux. Ça a créé des soucis, mais il n'y avait rien en termes de mesures scientifiques encadrées dans une étude clinique qui pouvait justifier la continuité de ça. Fin de citation, explique M. Robitaille. Les scientifiques surveillent maintenant un traitement génétique déjà approuvé aux États-Unis, appelé Tofersen, qui pourrait éventuellement être approuvé au Canada. Citation. C'est uniquement pour les patients porteurs de la mutation du gène SOD1. Fin de citation, précise le chercheur. Environ 10 à 15 % des patients sont atteints d'une forme génétique de la maladie. C'était Espoir et revers pour les patients atteints de la SLA, un texte d'Isabelle Pion, paru le 14 janvier 2025 dans La Tribune.
Belle, cause pour la cause, pour la santé mentale des jeunes, un texte paru le 15 janvier 2024 dans Le Nouvelliste. Le 22 janvier prochain, sera la 15e journée annuelle pour la santé mentale des jeunes au Canada pour mettre en lumière la crise qui s'intensifie chez les jeunes Canadiens, notamment depuis la pandémie en 2020, doublée d'une campagne nationale de dons par message texte. À elle seule, Bell versera 10 millions de dollars en 2024-2025, pour un montant de 184 millions de dollars depuis 2010. Le plan d'action du Québec en faveur des services en santé mentale prévoit une somme de 40 millions de dollars pour l'année 2024-2025, dont la moitié pour plus d'accès aux services et l'autre moitié pour réduire l'attente pour les services pour les 0-17 ans. Mais il existe une lenteur à reconnaître les services de proximité, les CLSC, et ceux-ci reçoivent concrètement moins d'argent. Le ministre Lionel Carman a vanté les résultats du programme Aire ouverte pour les jeunes de 12 à 25 ans. 40 millions de dollars seront alloués pour l'ensemble des régions administratives du Québec. Dans le cadre de la journée du directeur national des services en santé mentale et en psychologie légale, dans un texte publié le 21 juin 2024 dans la presse canadienne, le ministre Lionel Carman a indiqué vouloir étendre l'accès aux psychologues dans les CLSC et implanter des services sans rendez-vous. Au Québec, ce qui manque, c'est l'accès aux services sans rendez-vous, ce qui se fera dans les CLSC. Là-dessus, Mme Christine Groulx, présidente de l'Ordre des psychologues, a déclaré bénéfique cette offre de rendre accessibles les CLSC. La création de Santé Québec, avec sa directrice Geneviève Biron, a donné de l'espoir pour rendre accessible le système de santé et améliorer l'efficacité du réseau, mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Au Québec, une très récente statistique provenant de l'étude sur les illéniaux dans un sondage léger révèle une réalité troublante, une détresse silencieuse. La moitié des membres des générations Y et Z déclarent avoir vécu un épisode dépressif, soit une hausse inquiétante de 10 points par rapport à la situation en 2020. Derrière ces statistiques se cachent des drames humains. Échec à un examen, abolition d'un poste, des projets abandonnés. Le portrait de l'anxiété est tout aussi alarmant alors que 75% des jeunes ont vécu un épisode anxieux contre 45% il y a 4 ans. On s'en va vers un mur, entendions-nous il y a quelque temps à peine. Pouvons-nous éviter ce mur? Le Québec est fier de son système de santé universel. Je continue à penser et à répéter à qui veut l'entendre combien notre génération de jeunes souffre. Agissons dès maintenant. Ils sont l'avenir de notre société. Voilà une belle cause à supporter qui est porteuse d'espoir et de vie auprès des jeunes souvent en recherche de sens à leur existence. Ils et elles sont l'avenir de notre société. Et bravo à Bell d'avoir initié cette campagne auprès de la population québécoise. C'était « Belle cause pour la cause ». Pour la santé mentale des jeunes, un texte paru le 15 janvier 2024 dans Le Nouvelliste.
La détresse silencieuse. Agir maintenant pour la santé mentale des jeunes du Québec. Un texte de Fred William Miro paru le 10 octobre 2024 dans le Journal de Montréal. La santé mentale des jeunes est à un point critique, et il est temps d'agir. Les récentes statistiques provenant de la 7e édition de l'étude sur les milléniaux de Léger révèlent une réalité troublante. Près de la moitié des membres des générations Y et Z, 48%, déclarent avoir déjà vécu un épisode dépressif. Une hausse inquiétante de 10 points par rapport à 2020. Derrière ces statistiques se cachent des drames humains. L'échec à un examen, l'abolition d'un poste, la mort d'un proche. Le portrait de l'anxiété est tout aussi alarmant, avec près des 3/4 des jeunes, 75%, ayant vécu un épisode anxieux, contre 45% il y a seulement 4 ans. Les mesures de confinement ont eu un impact majeur sur leur santé mentale à une période cruciale de socialisation, ce qui fait craindre un fossé générationnel. Le coût de l'inaction. Cette détérioration rapide de la santé mentale des jeunes a des conséquences profondes, non seulement sur le bien-être individuel, mais aussi sur la société québécoise dans son ensemble. La situation est particulièrement alarmante au sein des communautés des Premières Nations. Les jeunes sont 6 fois plus susceptibles de mourir d'un suicide. Les coûts liés à la santé et à la détresse qui en découlent représentent non seulement un défi économique, mais surtout un enjeu humain. Au Québec, l'inaction en matière de santé mentale a un coût exorbitant, estimé à 18 milliards de dollars par an, selon une recherche actuarielle produite par Force Jeunesse. Cette somme considère non seulement les soins médicaux directs, mais aussi les pertes de productivité, l'absentéisme et les allocations de soutien. Derrière ces chiffres se cachent des vies interrompus, des projets abandonnés et un potentiel humain gaspillé. Malheureusement, l'accès aux soins psychologiques reste insuffisant. Les délais d'attente pour voir un professionnel sont souvent trop longs, en particulier en région, et les coûts restent prohibitifs pour une large part de la population. Pourtant, nous savons que des solutions existent. Selon l'INES, chaque dollar investi dans les soins de psychothérapie permet d'en économiser deux, non seulement en réduisant les coûts liés aux soins de santé, mais aussi en prévenant les complications à long terme. Une approche proactive pour un avenir en santé. C'est dans ce contexte que Force Jeunesse, en collaboration avec d'autres organisations jeunesse, lance un appel à l'action en cette Journée mondiale de la santé mentale. Le Québec est fier de son système de soins de santé universel. Pourtant, un volet essentiel de ce projet de société est négligé. La santé psychologique. Il est temps de compléter cette couverture en intégrant pleinement les soins en santé mentale dans le régime public d'assurance maladie. Cela passe notamment par un accès universel et gratuit à des consultations en psychothérapie, un service souvent inaccessible pour les personnes aux revenus modestes. Comme on l'entend souvent dans le monde politique, les jeunes générations sont l'avenir de notre société. Il est temps pour le gouvernement de passer de la parole aux actes en leur offrant les ressources nécessaires pour surmonter les défis qu'ils rencontrent. Investir dans la santé mentale aujourd'hui, c'est investir dans la résilience, la créativité et la prospérité future du Québec. Ce n'est ni un luxe, ni une dépense superflue. C'est une priorité sociale et économique. Il est temps que la santé mentale soit traitée avec la même importance que la santé physique, car investir dans la santé mentale, c'est investir dans l'avenir du Québec. C'était « La détresse silencieuse, agir maintenant pour la santé mentale des jeunes au Québec », un texte de Fred William Miro, paru le 10 octobre 2024 dans le Journal de Montréal.
Éducation au Québec, l'école à trois vitesses détruit l'égalité des chances, un texte de Shofika Vaithyanathazarma, paru le 8 janvier 2025, dans le Journal de Montréal. Janvier, mois des bilans et des résolutions. En éducation, toutefois, le constat est sans appel, ça ne va pas. Le sondage léger, commandé par la Centrale des syndicats du Québec, CSQ, donne l'heure juste. 50 % des Québécois dénoncent des inégalités d'accès aux programmes éducatifs. De plus, 90 % d'entre eux réclament une vision à long terme pour l'éducation et non des mesures temporaires ou des promesses oubliées après une élection. La question n'est plus de savoir si nous devons agir, mais plutôt comment. États généraux, une fausse solution? La tentation de convoquer des États généraux est forte. Ces grands forums sont séduisants. Ils donnent une impression d'action. Pourtant, ceux de 1996, censés repenser notre système éducatif, ont laissé peu de traces concrètes, notamment sur l'égalité des chances. Leur principal défaut? Trop large, trop long, trop éparpillé. Certes, les États généraux peuvent être utiles dans certains contextes, mais dans le climat actuel, ils risquent d'être inefficaces. Au lieu d'une réflexion généraliste, pourquoi ne pas opter pour une commission spéciale? Pensons à celle sur l'aide médicale à mourir ou sur les écrans. Des démarches ciblées, courtes et orientées vers des résultats concrets. Mixité sociale, un atout sous-exploité au Québec. Depuis des années, l'éducation au Québec souffre d'un mal structurel souvent tu, l'école à trois vitesses. En 2024, une grande partie des problèmes éducatifs découle de ce modèle. Le sondage de la CSQ montre que 72 % des Québécois considèrent la mixité sociale comme un atout. Pourtant, nous maintenons un système qui perpétue les inégalités. À Montréal, selon l'étude de l'IRIS, ce sont 34 % des élèves qui fréquentent des écoles privées, exacerbant les inégalités dans le réseau public. Historiquement, les enseignants montréalais sont affiliés à la FAE, un syndicat qui milite depuis longtemps pour une révision en profondeur du financement des écoles privées. Ce combat s'inscrit dans une volonté plus large, portée notamment par le mouvement École Ensemble depuis près d'une décennie, qui propose un plan ambitieux pour créer un réseau scolaire commun. Ce projet bénéficie d'un large consensus. Recherche, syndicats, milieu scolaire, parents, tous s'accordent sur la nécessité d'abolir ce système d'éducation à trois vitesses. Malgré cela, nos politiciens préfèrent souvent se concentrer sur des réformes vagues de programme. Il nous faut un plan ambitieux et cohérent qui transcende les cycles politiques. Une vision où chaque enfant, peu importe ses origines ou ses ressources, a accès à une éducation de qualité. L'expérience des pays comme la Finlande et l'Estonie démontre les bienfaits de la mixité socio-économique en classe. Ces systèmes éducatifs, parmi les plus performants au monde, favorisent non seulement l'épanouissement des élèves, mais aussi celui du personnel scolaire. En 2025, commençons quelque part. Une commission spéciale sur l'égalité des chances en éducation pourrait être cette première étape nécessaire, une porte d'entrée vers des réformes plus larges. Les États généraux et une commission d'enquête, nommée Rapport Parents 2.0, pourront venir ensuite. Le consensus est là. Il manque seulement le courage politique. Alors, en 2025, soyons à la hauteur de ce que nos enfants méritent. C'était L'éducation au Québec, l'école à trois vitesses détruit l'égalité des chances, un texte de Shofika Vaitianathazarma, paru le 8 janvier 2025 dans le Journal de Montréal.